Alors nous allons bien sûr continuer notre série sur le sujet, le thème de l'Église. Nous cherchons par cela à eh bien comprendre pour nous, chacun d'entre nous, eh bien l'importance que revêt l'Église. Et je ne parle pas juste de dire une dénomination en particulier, hein, je parle de l'Église, celle de Jésus-Christ, celle que Christ a créée, conçue et donnée pour les chrétiens. On discutait avec Damaris l'autre jour, elle voyait sur une page Facebook où plusieurs femmes chrétiennes partagent et il y avait une question qui était posée par rapport à comment vous avez choisi l'Église dans laquelle vous êtes, etc. Et il y avait une des réponses, en tout cas, c'était une dame qui disait, pour moi, c'est Jésus, hein. Les églises, elles peuvent, voilà, comment je cherche,
Décevoir.
décevoir, dans le sens où, voilà, on est déçu par ce qui s'y passe, ou par les gens, ou par le pasteur, ou etc., etc. Et je trouvais cela tellement triste, déjà parce que oui, il y a des églises où effectivement, voilà, il y a des tensions qui peuvent exister entre chrétiens, où il y a vraiment de mauvaises relations du pasteur avec l'église, etc. Ou toutes ces choses qui font que des gens sont quelque part dégoûtés, hein, de l'église. Et je trouve ça extrêmement triste. Triste d'une part à cause, ben, du mauvais témoignage que peut avoir une église, mais triste d'une autre part où une personne ne voit pas l'importance et la beauté d'une église, ne serait-ce que parce que, comme nous l'avons vu dans notre passage d'Éphésiens chapitre 4, Christ a donné. C'est un don de Christ lui-même. On est content d'avoir le don de la vie éternelle, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, d'avoir la rédemption de nos péchés. On est heureux de savoir que le Saint-Esprit vit dans le cœur du croyant et il est avec lui. Et voilà. Mais quand il s'agit, malheureusement, de ce don de Christ pour l'Église, ou même, quand on le verra un peu plus tard, des dons spirituels de Dieu pour le chrétien, quel gaspillage. Quel gaspillage beaucoup font de cela. Et donc pour nous, voilà, c'est. On a à cœur de vraiment bien regarder à ce qu'est l'Église et l'importance de l'Église, l'importance aussi des ministères qui se trouvent dans l'Église, de ces dons que nous avons vus, hein, des apôtres de Christ, des prophètes qui ont posé le fondement pour l'Église, des évangélistes qui sont ceux qui appellent les âmes à venir à Christ et être ajoutés à l'Église, à être baptisés, ajoutés à l'Église, et puis aussi de ces pasteurs enseignants, et comme on l'a vu déjà, bon, on a aussi dans les Écritures le terme ancien ou le terme évêque qui est employé, et parfois même dans certains passages, les trois notions sont là, celle du pasteur, de l'évêque et de l'ancien, et que ce sont des aspects, hein, du ministère pastoral, de celui qui enseigne dans l'Église, de celui qui est amené à diriger, parce qu'il amène les croyants, hein, à paître dans les Écritures, à chercher dans les Écritures l'enseignement de Christ pour nos vies. Et donc ces éléments-là, hein, sont importants pour nous, hein, de bien comprendre, de bien saisir. Et donc on arrive à une partie qui, encore une fois, peut sembler rébarbatif pour certains, pour d'autres, oh ben c'est pas si important que cela. Pour certaines églises, c'est des choses extrêmement strictes, hein, qu'il faut suivre à la lettre. Et nous allons essayer de voir, de comprendre ces choses-là. Mais on va parler de ce qu'on appelle du gouvernement dans l'Église. Alors, gouvernement, c'est pas le gouvernement français, d'accord? Hein, c'est pas le gouvernement d'un pays. Hein, quand on parle de gouverner, on a la notion de personnes qui sont donc placées dans des situations de responsabilité au sein d'un groupe, et cette responsabilité consiste à donner donc une direction, à diriger. Et on avait vu que ça, c'est quelque chose qui était également biblique. Hein, par rapport aux évêques, hein, ceux qui dirigent, hein, ont cette responsabilité, hein, pour l'Église. Donc on a vu, hein, que l'Église déjà donc était appelée un édifice, non pas physique, mais un édifice spirituel conçu donc par Jésus-Christ, que nous le voyons comme l'architecte, hein, de l'Église, mais qu'il a aussi confié, eh bien, la construction de cet édifice à plusieurs personnes à travers l'histoire, en commençant par ces apôtres de Christ, les prophètes qui ont posé le fondement, et ensuite les évangélistes, pasteurs et anciens, évêques, enseignants, qui ont continué hein, dans cette construction de cet édifice de l'église locale, et que chacun d'entre nous, hein, dans ce passage d'Éphésiens 4, eh bien, c'est l'église qui doit s'édifier elle-même. C'est-à-dire que chaque chrétien, eh bien, a une part dans la construction de cet édifice. Et donc, oui, cette analogie avec un architecte, puis même des chefs de chantier, des ouvriers spécialisés hein, que Christ a donné pour l'Église, ce sont des choses importantes pour nous de comprendre et de suivre les instructions donc, de Christ. Dans l'Église, donc, il y a des personnes que on va, quand on parle de en termes de théologie, hein, si vous ouvrez un ouvrage de commentaires bibliques, etc., ou des ouvrages de théologie et que vous regardez à la doctrine concernant l'Église, beaucoup d'entre eux vont parler des officiers dans l'Église. Ce n'est pas les officiers comme, voilà, c'est un général, il faut, voilà, comme ça, comme dans l'armée, mais officier par rapport au fait que, voilà, c'est une personne à qui on a confié une tâche, une responsabilité. Si on regarde hein, dans un dictionnaire ce qu'est un officier ou un office, donc c'est des personnes donc appelées à remplir une fonction. Hein, par exemple, bon, un officier est chargé par quelqu'un de s'acquitter d'une certaine tâche. Et donc, quand on regarde à ce que nous voyons dans les Écritures, ben déjà, nous avons vu que Christ lui-même avait confié des responsabilités à certaines personnes. Il a donné à l'Église aussi des personnes capables de remplir ces responsabilités dans l'Église. Et que, en regardant, que ce soit dans le livre des Actes, mais aussi dans les Épîtres, on voit que ces éléments nous sont donnés, je vais pas dire de manière. Voilà, on a tout un chapitre qui nous dit, voilà comment doivent se passer les choses dans l'Église. D'accord? Quelque part, bon, quand on étudie la théologie, on va vite se rendre compte que on a comme parfois un puzzle devant nous. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments dans un livre, dans un chapitre, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et on va prendre ces pièces pour les mettre ensemble afin d'établir quelque chose qui soit clair et compréhensible pour chacun. Ah oui, si on regarde le livre des Actes, bon, les choses étaient très simples en ce qui concerne, voilà, le mode de fonctionnement d'une église, les personnes qui étaient responsables dans l'église, les choses étaient simples. Mais voilà, avec cette simplicité, elle a dû faire face à des situations de plus en plus complexes, n'est-ce pas? Hein, ça a commencé, bon, voilà, avec quelques tensions dans l'Église concernant, voilà, les veuves qui étaient délaissées. Hein, donc l'Église cherchait à aider les personnes qui étaient en difficulté, notamment les veuves dans l'assemblée. Et il y avait des veuves chrétiennes d'origine juive et des veuves chrétiennes d'origine helléniste. Et voilà, il y avait ce sentiment ou cette réalité que ben, les veuves hellénistes étaient délaissées. Et donc ça a créé des tensions. Et donc là, on voit dans Actes chapitre 6. Eh bien, l'Église qui fait face à une première difficulté et qui va elle-même trouver une solution à cela. Et on a dans Acte 6, même si bon, il y a certains qui ne veulent pas forcément voir cela dedans, mais pour moi c'est le cas, dans Acte 6, on a l'établissement de ce que l'on appelle les diacres. Et on va parler de ça un peu plus tard aujourd'hui. Mais voilà, le livre des Actes, on découvre finalement une église qui se découvre elle-même. Parce qu'au fur et à mesure, voilà, il va y avoir des situations. Ah, les païens aussi reçoivent le Saint-Esprit maintenant qu'ils se tournent à Christ. Ah ben, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant? Est-ce qu'ils doivent suivre les mêmes règles que nous en tant que juifs? Et donc, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de situations à la fois pratiques, mais aussi théologiques, doctrinales, qui devaient être établies. Et on a cela dans le livre des Actes, et on voit une progression hein, dans l'église. Les épîtres vont venir amplifier les enseignements qu'on trouve déjà dans le livre des Actes, mais également nous apporter de nouvelles informations qu'on ne trouve pas dans le livre des Actes. Beaucoup d'églises se limitent à, voilà, dans le livre des Actes, ils ont fait ça comme ça, mais ne s'attardent pas forcément à regarder les enseignements des apôtres concernant l'église. Et donc les épîtres, elles amplifient, elles apportent donc parfois de nouvelles informations à celles que nous voyons dans le livre des Actes, notamment en ce qui concerne, eh bien, le fonctionnement dans l'Église, le gouvernement, la structure. Ce que l'on voit et ce que l'on reconnaît par rapport à ceux que l'on va qualifier ben, d'officiers dans l'Église, c'est qu'il y a deux offices, il y a deux on va dire, poste de responsabilité dans l'Église. Et comme on l'a vu la dernière fois, pasteur, ancien, évêque, on est en train de parler de la même fonction ici. Et on a vu que même celui qui est appelé pasteur ou berger ou même évêque, hein, ils ont, et anciens, ils ont la responsabilité de diriger. Si on prend, comme on l'avait vu la dernière fois, l'image même du berger, on aurait été regardé dans le psaume 23, hein, le bon berger, et on avait vu que le berger, ses responsabilités, c'est pas simplement de aller tapoter un peu sur la tête de la brebis pour lui dire ça va bien. Non. Il a une responsabilité, oui, de prendre soin, mais il va amener ses brebis là où elles peuvent être dans le repos, là où elles peuvent paître, là où elles peuvent se nourrir. Mais pour faire cela, le berger, il doit diriger. Et il faut aussi que les brebis la suivent. Donc, la notion même de direction dans l'Église, ce n'est pas une mauvaise chose. On a l'image de Christ le bon berger. Et on a l'image qui nous est donc donnée dans cet office de pasteur, enseignant dans l'Église, qu'il y a cette fonction de diriger. Mais ce n'est pas que limité à cela. Comme on l'avait vu, hein, le pasteur, il est amené donc à prendre soin, à enseigner, à veiller, hein, à surveiller sur l'Église, hein, sur l'état de santé spirituelle de l'Église. Et donc ça, c'est les choses qu'on avait vues, par exemple, dans Actes 20-28, hein, quand il parle aux anciens, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc surveillant, pour paître. » Donc là, c'est la notion de pasteur, de berger, hein. L'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. On pourrait déjà juste prendre ce verset-là, à la fin du verset, l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je crois que là aussi, hein, si beaucoup négligent ce qu'est l'Église et l'importance de l'Église, là encore une fois, c'est par le sang de Christ que Dieu s'est acquise cette Église. Et on ne peut pas négliger cela. Ou encore, bon, dans 1 Timothée 5, 17, que nous avions vu, hein, que les anciens qui dirigent, il y a une notion de direction, hein, qui dirigent soient bien jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, on comprend que dans une église, il va y avoir des personnes responsables de donner une direction spirituelle à l'ensemble du groupe. Et on le verra, je vais prendre le temps, hein, dans une autre prédication, de bien regarder en profondeur, hein, aux requis, hein, par rapport à une personne qui veut remplir cet office de pasteur, d'ancien, d'évêque dans l'Église, et de voir plus en détail, hein, ce que les responsabilités qui incombent à un tel chrétien dans l'Église. Et je sais que il y a de mauvais pasteurs, il y a de mauvais bergers, il y a de mauvais anciens aussi. Et je crois que peu importe le schéma que des églises vont prendre ou de structures qu'ils vont mettre en place dans leur assemblée, on ne peut pas négliger le fait que s'il y a un élément qui est mauvais, eh bien ça va détériorer tout le reste. Que ce soit un pasteur qui agit de manière dictatoriale, ou même un groupe d'anciens qui agit de la même manière, ou qu'il y ait une hiérarchie dans l'Église, beaucoup de sectes fonctionnent comme ça, hein. Il y a un gourou et puis il y a d'autres personnes en poste, responsables également. Et en fait, en fin de compte, toutes ces personnes-là, même s'il y a un chef au-dessus, toutes ces personnes-là sont responsables et abusent, hein, d'une certaine manière, le reste des gens. Donc, on verra tous ces éléments-là, Dieu voulant, par rapport au pasteur et à ses responsabilités. Mais comme on l'a déjà vu, hein, il a cette responsabilité de diriger, de surveiller, de prendre soin. Hein, Hébreux 13, 17 nous rappelle que nous, en tant que chrétiens, nous devons obéir à nos conducteurs. Donc, conducteur, c'est quelqu'un qui dirige. Et même, donc, ayez pour eux de la déférence. Et la raison pour cela, c'est qu'ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Alors déjà là, si par rapport à des choses que vous pouvez prier pour les pasteurs, c'est ça aussi. Ils ont une énorme responsabilité spirituelle. C'est pas juste de la logistique et de pouvoir prêcher, etc. On a une responsabilité vis-à-vis de chaque chrétien dans l'assemblée. Bon, on va avancer un petit peu, mais on sait que bon, le pasteur doit faire aussi l'œuvre d'un évangéliste, hein, comme on le voit dans 2 Timothée 4, 5, quand Paul écrit à Timothée, il dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, on comprend que le pasteur, il va avoir plusieurs responsabilités dans l'Église, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est à lui de tout faire dans l'Église. Parce que comme on l'a vu la dernière fois dans les églises, il y avait plusieurs anciens. Ou il y avait plusieurs évêques. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient aussi une responsabilité parce qu'ils avaient un don, le don spirituel de discerner quand il y avait des dangers, quand il y avait des erreurs doctrinales. Ou j'irais même jusqu'à dire que quand le pasteur enseignait quelque chose qui n'était pas biblique, eh bien de chercher aussi à corriger cela. Il faut pas oublier une chose, c'est que bon, le pasteur n'est pas dans une position de super chrétien. Il n'est pas dans une position de supériorité par rapport aux autres. Hein, le pasteur, hein, c'est un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, comme chaque chrétien. Et nous faisons des erreurs. Et il nous arrive aussi de pécher. Et il nous arrive donc de donner une mauvaise image du ministère pastoral. Mais l'Église est un corps, comme on l'a vu. Un corps où, eh bien, chacun d'entre nous, eh bien, nous avons, ne serait-ce que par responsabilité, mais que ça devrait être aussi par amour les uns pour les autres, de chercher à encourager, à exhorter, et que quand nous constatons un péché, d'aller voir cette personne et de l'encourager à se repentir. Toutes ces choses-là font qu'une Église, hein, est un corps. Tout comme moi, j'ai des responsabilités envers les chrétiens aussi ont des responsabilités envers les pasteurs. Et encore une fois, nous verrons ces choses plus en détail la prochaine fois. Donc, toutes les caractéristiques qui sont requises pour le pasteur, on verra ça un peu plus en détail. Mais encore une fois, juste pour revenir hein, sur cette notion hein, du pasteur qui dirige. Je crois que même quand on regarde, bon, dans le livre des Actes ou dans les épîtres de Paul, on voit que même lui, alors c'est vrai, on pourrait dire, mais lui c'était un apôtre, mais lui c'était un évangéliste, hein, qu'on pourrait dire un missionnaire, hein, il établissait des églises, mais même lui, dans son ministère, il était entouré par plusieurs chrétiens, il y avait d'autres personnes qui œuvraient avec lui. Mais ce que nous voyons à chaque fois, ben, c'est lui que l'on présente. Hein, c'est Paul et Barnabas, c'est Paul et Silas, c'est Paul et Timothée. Et on voit donc Paul qui a une responsabilité même envers ces personnes-là de donner une direction. Lorsqu'il dit à Tite d'établir des évêques en Crète, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il donne une direction, il donne déjà un ordre à Tite de faire une œuvre bien spécifique. Il a envoyé Tychique, par exemple, à Éphèse. Donc, on voit même là, dans l'œuvre d'établissement des églises, que le mode de fonctionnement, c'est que, oui, il y a une collaboration, mais dans cette collaboration, eh bien, on retrouve hein, celui qui va prêcher, enseigner, qui va être l'évangéliste, et d'autres qui vont aider, que Paul va laisser là dans telle église pour aider les chrétiens à croître et ensuite venir le rejoindre, etc. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là, en aucun cas, étaient inférieures à Paul. Si vous regardez dans les introductions hein, des épîtres aux Thessaloniciens, dans les autres épîtres de Paul, on va voir Paul, moi, apôtre de Jésus-Christ, ceci, cela. Là, ce que l'on voit, c'est que Silas et Timothée sont mentionnés comme étant ceux qui ont rédigé cette lettre ensemble. Donc Paul les voyait aussi à un niveau hein, de même responsabilité que la sienne. Mais d'autres donc ont aidé aussi dans le domaine logistique, hein, comme Tertius qui était le secrétaire de Paul, hein, c'est lui qui rédigeait, qui transcrivait les lettres de l'apôtre, ou d'autres qui ont agi dans l'hospitalité, comme Nason, hein, qui avait ouvert sa porte pour Paul et ceux qui l'accompagnaient. Donc là, on a déjà, si vous voulez, et j'aime pas trop utiliser ce terme-là de préfiguration, mais on a déjà là, dans l'œuvre, on va dire, d'évangélisation et d'établissement d'église, etc., on voit déjà une structure qu'on retrouve dans l'église. Donc là, bon, on a les pasteurs, on a également donc les diacres qui sont mentionnés dans Actes chapitre 6 et dans 1 Timothée chapitre 3. Ils sont mentionnés dans d'autres épîtres comme Philippiens, hein, quand Paul adresse cette lettre aux Philippiens, il les adresse donc aux évêques et aux diacres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pasteur. Rappelez-vous, évêques, pasteurs anciens, on parlait des mêmes personnes. Mais 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13, hein, les versets qui précèdent, on voit les requis hein, pour le ministère de pasteur, d'évêque. Et 1 Timothée 3, les versets 8 à 13, on voit donc les requis par rapport aux diacres. Alors qu'est-ce que c'est que ça, encore une fois, que diacre? Le mot lui-même, dans le grec, signifie serviteur. Et ce mot grec, diakonos, on va le retrouver dans différents passages qui ne parlent pas forcément de l'office de diacre dans l'Église. Quand Paul il dit « Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ », on va retrouver « Moi, Paul, diakonos », serviteur. Okay? Et on va retrouver ce terme employé dans le livre des Actes, dans les Épîtres, et il est donc utilisé d'une façon non technique à propos de tout ministère de l'Évangile où on est au service du Seigneur. Mais on voit que là, dans ce passage où Paul s'adresse à Timothée, il a déjà donné les requis par rapport à ceux qui doivent donc diriger dans l'Église, mais il parle également, voilà, des diacres, de ceux qui sont donc dans des positions spécifiques de service dans l'Église. C'est révélateur que les diacres, dans ce passage de 1 Timothée, eh bien, doivent avoir les mêmes caractéristiques requis spirituels que ceux pour le ministère pastoral. Il dit au verset 8, ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc on voit que même ceux qui sont appelés à servir dans l'Église, il y a des requis spirituels. Ce ne sont pas, bah, on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui vient juste de commencer à venir à l'église, dont on ne connaît pas grand-chose. On va dire, ah bah tiens, toi, on va te nommer diacre. Non. Quand on regarde au passage dans Actes chapitre 6, hein, il est dit ici que ils ont décidé, alors je retrouve le verset 3, il dit, c'est pourquoi, frère, et là, on va déjà aborder un petit peu par rapport au fonctionnement d'une église, mais il dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc il y a une responsabilité déjà ben, des apôtres qui étaient là, de donner à l'Église une solution par rapport à un problème qui était survenu dans la distribution hein, des dons pour les veuves. Mais il confie une responsabilité à qui? Il confie une responsabilité à l'Église. L'Église qui doit choisir, qui doit élire donc des personnes, et ici en l'occurrence sept hommes, hein, qui doivent avoir un bon témoignage, dont on peut voir hein, de manière, on va dire, visible, concrète dans leur vie, dans leur témoignage, qui sont remplis d'Esprit Saint, et qui vont s'occuper d'une charge, on va dire, pratiquement entièrement matérielle, logistique, voire même financière. Ces hommes, bon, ils sont nommés, on a Étienne, hein, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, etc. Et on voit que ces personnes-là, donc, avaient non seulement un bon témoignage, mais c'était des personnes qui étaient déjà actives dans le service du Seigneur. On y mentionne Étienne, on y mentionne Philippe. Vous lisez le chapitre, continuez de lire, on va voir, ben, le récit d'Étienne, qui va prêcher l'évangile, qui va être entouré de chefs religieux juifs mécontents, et qui vont l'emmener à être jugé par le Sanhédrin, et ils vont le lapider. Hein, et voilà, on a quelqu'un qui exerçait aussi un ministère dans l'Église, par l'Église, c'était un évangéliste. Plus loin, on retrouve Philippe, chapitre 8. Philippe, eh bien, qui va également faire une œuvre d'évangéliste, où il va rencontrer ce ministre de la reine d'Éthiopie, hein, qui va l'amener au Seigneur, qui va le baptiser. Voilà, on a des personnes non seulement qui ont un bon témoignage, mais qui ont déjà aussi un ministère spirituel dans l'Église, mais qui vont devoir s'occuper de choses matérielles et logistiques. Et dans le passage de Actes 6, nous voyons que la raison pour laquelle on a cet établissement de diacres, de serviteurs pour aider dans ce domaine-là, c'est que pour ceux qui sont dans les places de direction spirituelle, d'enseignement, de prédication, puissent se consacrer à quoi? À l'étude de la parole, à la prière, aux choses spirituelles. Donc l'Église, on doit faire en sorte que l'Église donne tous les moyens, eh bien, à ceux qui ont ces responsabilités de diriger, d'enseigner, qu'on leur donne tous les moyens de pouvoir faire cela à temps plein. Qu'ils puissent se consacrer entièrement à la parole. Donc, les pasteurs étaient responsables des besoins spirituels de la communauté des fidèles, et les diacres s'occupaient donc principalement des besoins physiques et logistiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient aucune autre action dans l'Église sur le plan spirituel. Ils ne faisaient pas que ça. Ce qui est intéressant aussi de noter par rapport à ce terme de diacre, et vous l'aurez remarqué également dans ce passage de 1 Timothée, c'est qu'on est en train de parler aussi de femmes. N'est-ce pas? Il dit, verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Et alors là, c'est la grande question. Pour beaucoup, c'est un débat. Pour beaucoup, c'est même un sujet où on ne va pas travailler ensemble. Mais la question, est-ce que là, on a un ministère de diaconat féminin, où on a des femmes qui ont cet office dans l'Église? Je crois qu'il semble clair ici que les femmes remplissaient une certaine fonction officielle dans l'Église. On le voit à plusieurs reprises, que ce soit dans les livres des Actes, mais on voit que les femmes ne sont pas, on va dire, négligées ou mises de côté ou écartées dans l'Église. Elles ont une grande place et un grand rôle dans l'Église. Ici, on a donc ce qui semble être une certaine fonction officielle dans l'Église primitive, l'Église du 1er siècle. Je crois que si vous lisez dans Romains chapitre 16, on mentionne par exemple Phébé, qui est appelée aussi une servante. Encore une fois, c'est le mot diakonos. On peut dire simplement, oui, c'est juste une servante, sans forcément que ce soit l'office de diaconat. Mais là, dans 1 Timothée, on est en train de parler de quoi? D'abord, on est en train de parler du ministère pastoral, et ensuite du ministère du diacre, et au milieu de ces requis pour le diacre, on nous parle de femmes. Ah pourquoi? Si ce n'est que, voilà, parmi les diacres, il y avait des femmes qui remplissaient également cet office. Et rappelons-nous que cet office-là, c'est une caractéristique, on va dire, pleinement logistique, matérielle, etc., qui n'appelait pas les femmes à un rôle de direction dans l'Église, ou même d'enseignement dans l'Église, mais de pouvoir servir de cette manière-là. Donc il semble convenable qu'il y ait certaines femmes qui soient consacrées à ces ministères de diaconat. Et parmi les choses que l'on voit chez les diacres, bon, il n'y avait pas forcément que les choses matérielles, parfois c'était aussi de pouvoir aider les gens qui étaient souffrants physiquement, où ils allaient prier, poser leurs mains sur un frère, sur une sœur, pour le rétablissement physique de cette personne. Ce que l'on voit donc, c'est un ministère vraiment d'assistance au pasteur pour s'occuper donc des choses matérielles, physiques, financières, etc., pour que le pasteur s'occupe des choses spirituelles, et que ces personnes-là, dans cet office de diacre, hommes et femmes, y participaient et étaient actifs dans l'Église. Ils aidaient à la fois l'Église et ils aidaient à la fois les responsables spirituels. Donc même quand Paul, lorsqu'il parle du ministère pastoral et qu'il dit celui qui aspire à la charge d'évêque désire une bonne chose, parce que c'est une bonne chose de pouvoir servir Christ dans cette fonction-là, je crois que également ceux qui ont la possibilité d'aider les personnes, les chrétiens à remplir ces ministères spirituels, c'est une belle chose également. C'est une manière de participer à l'œuvre de Christ. De plus, hein, il est intéressant de remarquer que dans ce passage de Timothée, hein, par rapport au diacre, il dit au verset 11, les femmes de même, hein, ça lit hein, ce qu'il est en train de dire par rapport au recueil par rapport aux femmes, c'est en train de lier les choses au ministère de diaconat. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut donc que les diacres avaient comme première responsabilité les besoins matériels, financiers de l'Église, et que certaines femmes, appelées diaconesses, travaillaient avec les diacres dans les domaines où elles pouvaient faire mieux l'affaire que les hommes. Hein, imaginez que, voilà, on est dans une situation où ils avaient une sœur qui était malade. Est-ce qu'on va faire venir tout un groupe d'hommes dans la chambre de la malade, hein, pour prier pour elle, ou on peut faire venir des diaconesses? Et ainsi, bon, éviter tout malentendu ou quoi que ce soit. Hein, je crois qu'il y a des choses qu'on peut se mettre en place comme protection également, et que ben, dans ce cas-là, hein, ces femmes pouvaient remplir ce ministère-là probablement mieux hein, que les hommes. J'aimerais ajouter juste quelques remarques additionnelles avant de continuer un peu sur ce thème-là. Il y a souvent, encore une fois, cette confusion entre les dons que Dieu accorde dans la vie d'un chrétien et les fonctions qu'il peut occuper dans l'organisation de l'Église. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion là-dessus. On l'a vu, hein, le pasteur ou même l'office hein, pastoral sont souvent assimilés plutôt que distingués comme ils devraient l'être. C'est-à-dire que on va dire ben, pasteur et pastorat. Hein, ça va être la même chose. Le pasteur, il est un don de Christ pour l'Église. Et le pastorat, c'est une fonction. Hein, c'est une fonction qui est occupée par le principal dirigeant dans l'Église. Et on va remarquer quelques distinctions importantes dans les différentes formes de gouvernement de l'Église. Mais voilà. On a cette notion de don, on a cette notion d'office, et je crois que j'en ai déjà parlé, qu'une personne peut avoir certains dons spirituels sans forcément occuper un office dans l'Église. On avait vu que, bon, il pouvait y avoir plusieurs anciens dans une Église qui enseignaient, mais on avait vu aussi que certains, ce n'était pas forcément le cas. Hein, c'était dans notre passage de 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. C'est-à-dire que pas tous les anciens prêchaient ou enseignaient. Ils avaient d'autres responsabilités dans l'Église. Donc, il y a cette différenciation à faire entre les dons spirituels et l'office, et c'est pas parce qu'il y a forcément un don spirituel que la personne doit occuper l'office dans l'Église, l'office de pasteur. Donc ces deux offices, hein, de direction, de pastorat et celui de diacre, ils sont vitaux pour l'Église, pour le bon fonctionnement de l'Église. On comprend bien que quand on a un pasteur, un enseignant qui a la possibilité de se consacrer entièrement à l'enseignement et ne pas être perturbé par des choses matérielles, logistiques, hein, parfois même administratives. Ça va aider l'Église. Ça va aider l'Église qu'on ait une telle personne. Ça va aider l'Église d'avoir un diacre, plusieurs diacres, diaconesses dans une Église pour pouvoir assister ceux qui enseignent, pour pouvoir assister l'ensemble de l'Église. Alors on va aborder, si vous le permettez, les différents modes de gouvernement. Parce que là, on a parlé des offices, mais voilà, quel doit être le schéma structurel d'une église? Comment doit fonctionner hein, ce ministère pastoral et des diacres dans l'église? Et il y a donc différents modes de gouvernement qui existent aujourd'hui. Hein, si vous regardez à différentes églises, et même dans les églises dites évangéliques, il va y avoir différents schémas structurels dans ces églises. Ce qui est important pour nous, c'est de garder à l'esprit exactement ce que la Bible enseigne dans ce domaine. On l'a vu par rapport aux pasteurs, par rapport aux diacres, pour bien comprendre l'importance de la structure même et de mode de gouvernement dans l'Église. Si on regarde, on va dire, en général, à l'ensemble des églises dites chrétiennes, beaucoup d'églises se réclament de Christ, n'est-ce pas? Et on va retrouver différentes structures. La plus connue, c'est celle que nous voyons dans l'Église catholique romaine, c'est un système papal, c'est-à-dire qu'on a une personne qui dirige tout. L'ensemble, pas juste d'une église, mais toute une structure et toute une flopée d'églises. On a aussi ce qu'on appelle le format épiscopal, et vous aurez probablement retrouvé, ah, ça ressemble à l'épiscopos comme on a vu la dernière fois, un évêque. Et c'est précisément cela. Et on va regarder un peu plus en détail. Il y a aussi le format presbytéral, là aussi, presbytéros, ancien. D'accord? Et puis on a un format qu'on appelle congrégationaliste. Et donc chacune donc de ces formes, on retrouve donc une structure, un certain mode de fonctionnement bien différent. Hein, certaines églises même peuvent réunir plusieurs formes de structure. C'est-à-dire on prend un peu de là et on prend un peu de là, et puis voilà. Et on va voir que dans certaines églises, il va y avoir une structure bien différente. Dans certaines églises, on va les qualifier de minimalistes. C'est-à-dire que voilà, on fait le strict minimum. Même pas de structure, c'est bon, ben, on va dépenser tant comme ça. Bon, d'accord, ouais, voilà. Et on ne fait rien, selon même les règles qu'on a un peu en France par rapport aux associations culturelles, cultuelles. Mais bon, voilà, c'est un minimum d'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation du tout, parce qu'il y a quand même une forme quelque part d'organisation, mais qui n'est pas clairement expliquée ou établie. Dans certaines églises, il va y avoir une hiérarchie. Hein, ça veut dire que l'église va être gérée par une personne ou par un groupe de personnes. On a certaines églises qu'on qualifie d'étatiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées à l'État. C'est-à-dire que l'État est celui qui va déterminer les choses pour l'église. Et on a les systèmes fédéralistes, c'est-à-dire que c'est une gestion par un groupe d'églises. Alors, dans ces différents systèmes que nous voyons hein, dans les églises aujourd'hui, on va remarquer que ça va toujours amener des problèmes et des conséquences fâcheuses. On comprend bien que dans le système papal, où on a une personne, c'est un système autocratique, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui règne sur l'ensemble. C'est lui qui va décider même des doctrines. Hein, si vous étudiez un peu l'histoire hein, de l'Église catholique et les différentes doctrines établies, c'est le pape, c'est à chaque fois le pape. Et donc il y a une autorité qui est absolue, qui est centralisée en une seule personne. Vous allez dire, ah oui, mais ce n'est pas les cardinaux qui ont élu et choisi le pape? Oui, mais après cela, ben le pape, c'est lui qui dirige tout, et les cardinaux, hein, ils n'ont quasiment plus rien à dire. Si le pape dit, ben voilà, maintenant ce qu'on va faire, ben les cardinaux, ils vont dire, bon, ben on va appeler les autres pour leur dire, voilà, vous devez faire ça comme ça maintenant. Donc on a une hiérarchie élaborée, hein, un pape, des cardinaux, des évêques, des prêtres, et divers sous-ordres. Et donc, historiquement aussi, on peut souligner que l'Église catholique a été rattachée à l'État dans beaucoup de pays. Il y a le système donc épiscopal, et là on a ce que je qualifierais d'un gouvernement oligarchique, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un groupe de personnes, un groupe d'évêques ou de surveillants, et même dans certaines églises, on va retrouver plutôt des ordres qui sont établis là-dedans, les évêques, les prêtres ou les diacres. Dans ce système-là, on va retrouver notamment l'église anglicane, hein, qu'on retrouve au Royaume-Uni, ou l'église épiscopale aux États-Unis. Là aussi, hein, il y a un rattachement à l'État. En tout ce qui concerne bon, l'Église anglicane. Il y a le système presbytéral qu'on a mentionné. Donc ça, c'est un gouvernement de l'Église donc par des anciens. Généralement, il prévoit des comités, si vous voulez, qui vont diriger les choses. Donc on a un comité, un consistoire, un synode et une assemblée générale. Et tous ces différents groupes, hein, et sous-groupes, ce sont des groupes de personnes qui vont diriger l'Église. On va retrouver, hein, dans ces églises-là même des pasteurs ou des anciens, hein, parce qu'ils peuvent être différents sur ce schéma-là. Mais on retrouve donc ces pasteurs, ces anciens qui dirigent l'Église, mais qui vont être soumis à ce que voilà, le synode va exiger de l'ensemble des églises. Donc là, on retrouve les églises presbytériennes, hein, qu'on trouve beaucoup aux États-Unis également. On peut déjà, juste là, hein, soulever plusieurs problèmes avec ces schémas-là, ces modes de gouvernement-là. Dans tous ces systèmes, hein, si on veut regarder de manière pratique, dans tous ces systèmes-là, la propriété de l'église locale est inexistante. C'est-à-dire qu'un local, ça appartient au groupe. Ça veut dire que si, voilà, on a une église qui se réunit dans un local et que d'un jour à l'autre, ben, ce groupe dit, ben, maintenant, non, vous pouvez plus utiliser ce bâtiment-là. Ils doivent sortir. Ils n'ont aucune voix, aucune décision par rapport à cela. Si, par exemple, cette structure qui est établie décide, on veut utiliser votre local pour tel événement, il n'y a pas le choix. Alors, là, on parle de ceux qui dirigent au point de vue d'un groupe. Okay? C'est-à-dire que même le pasteur qui est là dans l'église locale doit se soumettre. Là, on est en train de parler de l'aspect pratique, mais dans l'aspect spirituel, là aussi, ce sont ces groupes-là qui vont décider, toi, tu vas être pasteur dans telle église. Et toi, ben maintenant, tu n'es plus pasteur là, on va mettre un autre à la place, toi, tu vas aller ailleurs. Hein, c'est des choses que j'ai déjà vu faire, j'ai entendu parler, hein, de personnes proches, hein, qui ont expliqué que dans leur église, ils avaient un pasteur qui était formidable, une bonne communion entre le pasteur et l'église. Mais voilà, la structure au-dessus a dit, non, c'est plus toi maintenant, on met quelqu'un d'autre. Et ça a tout chamboulé la vie d'église. Ça a chamboulé également, eh bien, la relation qu'il y a maintenant avec ce pasteur-là et l'église. Et donc, on comprend que ça provoque des situations qui peuvent être compliquées, qui peuvent être dévastatrices parfois, qui vont chambouler la vie d'une église. Et toute église qui refuserait, hein, une telle coopération, donc peut se voir refuser le droit même de choisir pour elle-même. Dans certaines structures, hein, même des structures fédéralistes, voilà, c'est un groupe qui va dire. Voilà, on va soutenir tel missionnaire, mais les églises, tout ce qu'elles font, c'est envoyer leurs sous au centre, et le centre décide de qui on va soutenir. Hein, on voit ça notamment dans ce qu'on appelle la Convention des Églises Baptistes du Sud, hein, qui a un système fédéraliste comme cela, où ben, les églises locales, ce n'est pas elles qui déterminent qui y soutiennent. Ce qui détermine, c'est on va envoyer tant d'argent au centre, et le centre, lui, va répartir cela entre les différents missionnaires. Deuxièmement, il y a un problème crucial, hein, comme j'ai dit, c'est le fait que on se retrouve dans des situations où les églises locales sont contraintes d'obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu et sa parole. On a un système central qui va déterminer la doctrine pour l'ensemble des églises. Et ce que l'on voit actuellement, bon, davantage aux États-Unis, mais on le voit aussi dans d'autres pays, où ce que ce centre impose comme doctrine maintenant à l'ensemble des églises, certaines des églises disent, non, on n'est pas d'accord, c'est pas dans la Bible ça. Ah, vous n'êtes plus d'accord avec nous? Non. Ben, vous ne faites plus partie de notre groupe. Ah ben d'accord. Ben, sortez de nos locaux. Et on a une église qui se retrouve à la rue. C'est comme ça que ça se passe. Hein, Les dernières années, on a vu ça se produire dans plusieurs églises aux États-Unis, hein, sur la question, par exemple, que ce soit le ministère pastoral des femmes, que ce soit le ministère pastoral tenu par des personnes homosexuelles, etc. On a beaucoup de scissions qui se sont faites dans les dernières années sur ces deux thèmes-là, où les églises se sont retrouvées à la rue parce qu'elles ne faisaient plus partie de ce groupement d'églises. Donc on peut comprendre, sur un plan à la fois logistique ou même spirituel, ce qu'il y a de mauvais. Quand il y a une assemblée qui voit une erreur doctrinale et qui se lève contre cette erreur doctrinale, il y a un prix à payer. Actes chapitre 5 nous montre qu'il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre, il a pris une position face au Sanhédrin. Sanhédrin, c'était un système comme ça aussi. C'est-à-dire, on avait un groupement de personnes qui décidaient, qui régissaient de la vie spirituelle de l'ensemble du peuple. Mais Pierre dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, pour nous, en tant qu'église locale, on doit avoir le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se mettre sous l'autorité, que ce soit d'une personne, ou se placer sous l'autorité d'un groupe de personnes ou d'un groupe d'églises. On veut avant tout se placer sous l'autorité des Écritures, sous l'autorité de Dieu. Souvent, ce qui se passe, c'est que on a une possibilité de facilité par rapport à une situation qui nous est proposée par tel système. Surtout au système fédéraliste. Parce que le système fédéraliste, ça va faire quoi? C'est-à-dire que nous, on va vous aider financièrement à trouver un local. On va vous offrir un local. On va même vous pourvoir un pasteur et c'est nous qui allons le payer. Okay. La solution de la facilité, elle est très tentante, souvent. Et c'est important pour nous, pour chaque chrétien, pour chaque église, de faire la part des choses entre ce qui est biblique et ce qui est purement humain, et de discerner quelles vont être, eh bien, les conséquences d'un système humain, finalement. Alors, nous, on le dit, hein, nous sommes une église déjà indépendante, c'est-à-dire que nous sommes rattachés à aucune structure. L'église décide pour elle-même. Nous sommes baptisés par conviction sur le point doctrinal, hein, mais voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir communion avec d'autres églises du même type que nous, de aider ces différentes églises, de soutenir aussi différentes œuvres. Et même, il existe parmi les baptistes indépendants, une sorte de d'alliance, si vous voulez, ou de travail en commun. Hein, il y a l'Alliance baptiste de France qui existe, qui est composée d'églises baptistes indépendantes, mais la structure, elle ne décide en rien de ce qui se passe dans les différentes églises. C'est-à-dire que les églises vont juste coopérer. Elles vont utiliser cette structure-là pour coopérer. En dire, ah, tiens, on a cet argent-là, on veut en faire un don. Comme ça, quand il y a une église qui a un besoin spécifique, ben, les autres vont dire, ah ben tiens, oui, cette église-là, ils ont besoin d'aide. Et puis les autres églises, ah ben on va envoyer ces fonds-là, et puis ça va être envoyé. Et c'est purement et simplement cela. C'est-à-dire que cette structure-là, elle ne va pas dicter aux églises telle personne pour le pastorat, ou telle personne que vous pouvez soutenir comme missionnaire, ou ce bâtiment nous appartient. Donc on peut avoir un système de collaboration comme cela. Mais quand on rentre dans une structure où on place l'autorité de l'église locale dans les mains de personnes qui ne font même pas partie de cette église locale, il y a un danger qui est réel. Je vois le temps défiler, et défiler, et défiler. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais il nous restera à voir donc un dernier système, hein, le système congrégationaliste, et on verra, hein, comment fonctionnent un peu toutes ces différentes structures. Mais juste pour faire simple, comme ça on pourra avancer la prochaine fois, le système congrégationaliste, voilà, c'est l'Église qui décide pour elle-même. C'est-à-dire que même les personnes qui sont dans des postes, on va dire, de direction, comme les pasteurs, leur voix au sujet des votes, c'est la même que celle des autres. Hein, dans les assemblées d'affaires, hein, Émilie a pu en attester, moi je votais pas deux fois. Je n'avais qu'une voix. Et ce que l'on va voir, c'est que Dans le schéma que l'on a dans les Écritures, c'est davantage ce système-là où on a des églises qui sont autonomes, qui sont autogérées, qui sont autofinancées et qui collaborent avec les autres églises hein, de manière volontaire, sans que ce soit dicté par qui que ce soit, si ce n'est que le Seigneur bah, nous pousse à agir vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'une église, de les aider, etc. Mais voilà, le format congrégationaliste, mais c'est celui que nous retrouvons ici, où ben voilà, l'Église décide pour elle-même. C'est pas simplement dans les affaires, on va dire, matérielles, logistiques et financières. Comme je l'ai dit, si jamais vous soulignez quelque chose que moi j'enseigne, que vous clairement vous dites, mais ça c'est pas biblique, vous avez aussi une responsabilité en tant qu'Église de me dire, non, Jérémy, ça c'était pas bon. Ou mais pareil avec Philippe, et Philippe, il serait d'accord hein, de reconnaître cela et d'accepter cela. C'est un corps, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous enseigne. Un corps vivant, un organisme vivant, organisé, avec une structure où Dieu nous donne eh bien, la liberté hein, de déterminer les choses pour notre propre assemblée, pour autant que nous suivions les doctrines, le format, les schémas, tous les aspects pratiques que l'on peut voir dans les Écritures.